par des questions un peu diverses, si vous voulez. La première, c'est une question qui vient. Alors, il y a une question qui arrive avant le passeport. C'est une question relative à la situation professionnelle. La question, c'est celle de la taille de la situation professionnelle. Alors, je ne veux pas vous dire, il faut que ça prenne 30 temps d'heure, etc., avec les étudiants. L'entrée de la situation professionnelle, et ça, on l'a écrit et dit, on l'a dit au moment des différents moments de formation, on l'a écrit dans les documents qui sont publiés sur le CRCF, que l'entrée n'était pas la compétence. On a des processus. Le métier est structuré en processus, parce que c'est comme ça que nous avons observé le métier de comptable, à Bac plus 2, un cœur de métier, P1, P2, P3, P4, deux processus qui permettent le développement de compétences au-delà de ce qu'on peut attendre d'un BTS, mais en même temps, on a un objectif culturel en termes de calcul de coûts, et puis en termes d'analyse financière, et en même temps, dans certaines structures, on pense notamment aux PME et aux petites entreprises. Le comptable va être confronté à ces situations, peut-être confronté à ces situations où il a calculé un coût, où il a à produire des éléments d'information financière, etc. Bon. Ensuite, on a des activités, parce que chaque processus, finalement, est un ensemble cohérent, structuré d'activités. Et on s'arrête presque là. Sauf qu'effectivement, quand on veut décrire l'activité, on est obligé de dire ce qu'il y a dedans. Et le seul moyen que l'on ait de dire ce qu'il y a dans une activité, c'est d'aller un peu plus finement, d'aller dans ce qu'on a appelé la composante d'activité qui est associée à chaque fois à une compétence. Rentrer par la composante d'activité, c'est un grain qui est beaucoup trop fin, parce que on perdrait complètement la vision processus du métier. De comptable. La caractéristique du métier de comptable, c'est qu'effectivement, on a des travaux qui sont très organisés les uns par rapport aux autres, parce qu'ils se succèdent, parce qu'il y a un événement déclencheur qui déclenche l'activité, parce que chaque résultat d'une activité déclenche une autre activité, ou parce que des activités se déroulent en parallèle. Voilà. Donc, P1, par exemple, on a des activités qui pourraient se dérouler en parallèle, en P2 aussi. En P3, on a fait des choix pour structurer autour de la typologie des impôts en France. P4, on a quasiment un processus chronologique. P5, encore plus. Et P6, effectivement aussi. Voilà. Donc, on a une structuration des processus qu'il faut pouvoir restituer aux étudiants. Donc, si on rentre par la composante d'activité, c'est-à-dire le grain de plus fin, on va être vraiment en difficulté pour restituer cette cohérence, cet enchaînement, cette logique qui fait qu'effectivement le travail d'un bac plus 2 en comptabilité gestion est relativement organisé, ce qui permet effectivement aux étudiants de développer, parce qu'ils auront repéré la structuration du processus, de développer leur autonomie. Donc l'entrée situation professionnelle, elle se situe quelque part entre un niveau macro, le processus, les processus, et un niveau méso, l'activité. Une situation professionnelle, c'est un peu plus qu'une activité, c'est au moins quelques activités, et puis c'est pas tout à fait l'ensemble des processus, il nous faut un peu plus que ça en termes de situation professionnelle. Au moins, si on compte par rapport à l'aspect réglementaire, il nous faut au moins six situations professionnelles et peut-être un peu plus. Voilà. Donc, les exemples qui sont publiés par les auteurs du CRCF, et j'en profite pour remercier toute l'équipe du travail qui est fait sous le pilotage de Daniel Perrin-Toinin. Le travail qui est fait, c'est effectivement de donner à la situation professionnelle une relative densité, un grain suffisamment épais pour que l'on puisse aller chercher déjà différentes activités, qu'on puisse les articuler les unes aux autres pour montrer comment elles se répondent, comment elles s'articulent, comment elles s'enchaînent, comment elles sont organisées les unes avec les autres. Voilà. Donc, Tout ça est important parce que, déjà parce que c'est la logique du métier, on n'est pas sur une somme de micro-activités qui seraient disjointes, une somme de composantes d'activités qui seraient disjointes les unes des autres, mais on est bien sur des processus, un métier organisé en processus, et dans les processus, il y a des activités avec, grosso modo, un modèle événement-résultat avec acteurs, on est sans arrêt en relation, donc c'est ce qu'on s'est attaché à faire pour décrire dans les tableaux toutes les activités où on décrit dans la première activité, dans la première composante d'activité de l'activité, eh bien, les acteurs qui sont en relation, les équipements, les ressources, etc. Voilà. Bon. Ce qu'on va demander aux étudiants, alors deuxième précaution d'usage, c'est le passeport. C'est pas votre outil. Que vous le regardiez, c'est une chose. C'est peut-être même nécessaire pour savoir où en sont les étudiants. Parce que on reste formateur dans l'âme, quelle que soit la manière dont se déroule l'évaluation, et que d'accompagner les étudiants dans la constitution de leur dossier, c'est vraisemblablement une préoccupation qui est assez prégnante. Donc c'est l'affaire de l'étudiant. Mais vous allez effectivement leur donner un compte-rendu pour leur dire si effectivement ils décrivent correctement les situations professionnelles, si l'explicitation est de leur démarche est pertinente, cohérente, si sur le fond, ils voient juste, si sur la forme aussi, on va reparler de cet aspect formel, leur rédaction est suffisamment explicite, donc vous allez leur rendre compte de tout cela. Mais c'est simplement sous la forme d'un compte-rendu, c'est pas un support d'évaluation, c'est pour les étudiants un support de formation. Alors, je vais vous donner quelques idées au travers du passeport. Forcément, dans les académies que vous représentez, la question s'est posée. Mais il y a des régions, des conseils régionaux qui commencent à imposer des passeports, pas à niveau BTS, mais qui commencent à imposer, à proposer des passeports qui prennent en compte la traçabilité du parcours. L'objectif, c'est de prévenir le décrochage. Voilà, c'est de savoir quand un élève décroche ce qu'il a appris pour que éventuellement, s'il revient en formation, qu'il puisse ne pas repartir de zéro. La préoccupation des conseils régionaux est tout à fait louable. On est tous là pour défendre la même cause, c'est que les étudiants inscrits dans une formation aillent jusqu'au bout de leur cycle de formation et que s'ils décrochent, qu'ils puissent revenir à un moment donné, qu'on puisse tout faire pour qu'ils puissent, pour les aider à revenir. Donc on a une préoccupation commune. Encore faut-il que ce passeport soit compatible avec nos intentions pédagogiques. Voilà. Donc, on a proposé un passeport déjà pour cette raison. Deuxièmement, il nous semble que la compétence, elle est difficile à conscientialiser, et que la meilleure façon d'y arriver, c'est vraisemblablement la phase d'explicitation qui est indispensable pour que l'étudiant puisse prendre conscience de ce qu'il a fait, de comment il l'a fait et de ce qu'il a appris en faisant. Donc expliciter le travail d'explicitation qui est demandé dans le passeport, c'est ce travail. Le passeport, donc rôle du conseil régional, ensuite la nécessité d'expliciter pour l'étudiant, donc de rendre compte de ses démarches, de les expliquer, de les justifier, de prendre conscience de ce qu'il a appris en faisant. C'est vraisemblablement une phase importante. On est aussi dans la formation tout au long de la vie. Nous y sommes, nous, déjà adultes. Les étudiants le seront encore plus que nous. Donc la nécessité de se poser la question en permanence de ce qu'on a appris en faisant pour développer effectivement son socle de compétences et d'évoluer d'un point de vue professionnel ou tout au moins de maintenir sa professionnalité. Donc réfléchir à ces pratiques, on le formalise par le biais du passeport professionnel dans le cadre de la formation. C'est vraisemblablement un exercice que les étudiants auront à faire une fois qu'ils seront actifs, une fois qu'ils seront professionnels, pour maintenir leur professionnalité. Et puis, on pourrait rajouter différents éléments. la question du rédactionnel, qui est une question qui est essentielle à Bac plus 2, qui est d'ailleurs tout au long du système éducatif, habituer les étudiants à écrire, à décrire ce qu'ils font, à documenter leurs choix, est un exercice qui est difficile et qui pourtant est nécessaire. Donc ce qu'on demande aux étudiants dans le passeport, ou par le biais du passeport, c'est non seulement d'expliquer ce qu'ils ont fait, mais c'est de justifier pourquoi ils l'ont fait et comment ils l'ont fait. Ce qu'on nous demande par rapport à l'insertion professionnelle à Bac plus 2, c'est d'être capable, ou ce que les étudiants soient capables, de documenter leur choix pour que un professionnel, un tiers qui aurait à reprendre le dossier après eux, puisse le faire sans avoir à tout recommencer, mais simplement en reprenant la documentation qui a été produite par le professionnel, en l'occurrence l'étudiant. Donc tout ça mis bout à bout ou mis ensemble, on arrive au passeport professionnel. Donc ce qu'on a dit par rapport au passeport, c'est que le niveau d'entrée est bien l'activité. C'est pas le micro, c'est la situation professionnelle décrite en termes d'activité, c'est pas le micro. Alors, là-dessus, on enlève toutes les questions qui sont posées à Canopé aujourd'hui, parce qu'effectivement, le micro, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas rentrer par le micro. On vous dit, c'est l'inspection générale qui a dit que, Canopé a raison en vous disant ça, parce qu'on a refusé de rentrer par les 141 composantes d'activité, par les 141 compétences, parce que le travail aurait été beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd. En revanche, si vous rentrez ou si les étudiants décrivent des situations professionnelles décrites en activité, ça va être quelques situations professionnelles. J'ose pas donner de chiffres. C'est un nombre relativement limité de situations professionnelles décrites en activité et ça nous suffit. La composante d'activité, elle est là simplement pour que l'on sache quel est le contenu de l'activité, pour la décrire, pour savoir ce qu'il y a dedans, mais ce n'est pas plus. Il n'y a pas lieu de descendre au niveau du micro pour décrire ce que l'on a fait de manière assez précise. Donc, c'est l'outil des étudiants, de vos étudiants. Ils doivent expliciter leur démarche, repérer les méthodes qu'ils ont mises en œuvre, repérer les savoirs qui ont été mobilisés, dire, ben voilà, j'ai fait un calcul de coût pour aller chercher P5 parce que, et voilà comment je l'ai fait, voilà comment j'ai repéré, je sais que quand on fait un calcul de coût, il y a différents objets, compte tenu du contexte qui a été proposé, j'ai bien compris que l'objet du calcul de coût, c'était pas un produit, savoir si c'était un produit ou non produit, mais c'était une commande, etc. Donc c'est tout ce dont l'étudiant tout ce que l'étudiant doit analyser. Et puis, à un moment donné, ça va vous permettre, ça doit lui permettre d'apprécier le niveau de maîtrise de la compétence dans lequel il est. Bon, vous voyez tous comme moi ce qui est écrit sur le diaporama que vous aurez. C'est les inciter à repérer, à caractériser, à questionner les ressources mobilisées. Voilà, donc je me suis servi de la base de données PGI, voilà comment j'ai fait. C'est les aider à analyser les situations professionnelles du passeport, une explication écrite. Ce passeport, c'est bien de permettre aux étudiants d'expliquer ce qu'ils ont fait sur des situations professionnelles qui leur semblent, qui vous semblent suffisamment complexes, étoffées, pour donner du sens à ce travail d'explicitation. Voilà. Donc, quel est votre degré de relecture par rapport à ça? Bon, c'est peut-être tout simplement leur dire déjà que ce sont des documents qui vont être renvoyés à des personnes extérieures au lycée, puisque ça va être lu par des jurys d'examen, et que rendre un document propre d'un point de vue professionnel, à la fois sur le fond, sur la structure et sur la forme, peut être aussi un moyen de démontrer sa professionnalité. Ce matin, on a évoqué la question du rédactionnel. Ce que j'ai dit, donc je le dis à tous ceux qui sont présents ce soir, cet après-midi, on sait effectivement la difficulté que les étudiants qui arrivent en BTS peuvent avoir par rapport au rédactionnel. L'objectif, effectivement, c'est d'assurer un niveau qui est compatible avec le Bac plus 2, à la fois sur le fond, que ce qui est écrit ou communiqué soit correct, pertinent, sur la structure, que ça soit compréhensible, et sur la forme, c'est-à-dire que les normes de base de la communication écrite et orale soient respectées. Voilà. Donc après, vous déduisez tout ça, vous déduisez des questions par rapport à l'orthographe. Si les fiches d'explicitation sont mal rédigées, que l'étudiant n'en comprend pas le sens et l'utilité, on peut se poser aussi la question de la part de sa professionnalité. Bon, c'est des exercices que l'on rencontre dans d'autres formations. Assez souvent, le professeur d'ailleurs amène des relectures croisées entre étudiants de la classe pour qu'ils aient à se dire si, oui ou non, ils comprennent ce qui a été écrit par l'un d'entre eux. Voilà. Bon, et puis, donc je vous l'ai dit aussi, dans le cadre du passeport, on peut recenser des éléments de formation assez divers, à la fois liés au processus, aux ateliers professionnels, mais aussi aux stages. Voilà, il n'y a pas de raison d'exclure les champs de la formation. Bien au contraire, si on peut associer ces différents moments de formation pour les synthétiser dans un parcours cohérent, on gagnerait en visibilité. Alors, il existe deux supports, enfin on vous a proposé deux supports, mais il y en a peut-être d'autres, hein, je crois que certaines équipes se sont mis à l'œuvre pour travailler des supports locaux, pourquoi pas, dans la circulaire, vous avez vu qu'on faisait référence aux deux que nous vous avons présentés. Donc on a une solution sous tableur, donc est accessible sur le site du CRCF, qui est complètement compatible avec nos intentions et avec l'écriture du référentiel. Il y a la solution commercialisée par Canopé à partir d'un modèle conceptuel qui n'est pas tout à fait celui qui nous aurait convenu, puisque une situation par définition, dans notre définition, elle est multiprocessus. Or, dans la solution Canopé, eh bien, on a une fiche par processus convoqué dans une situation, ce qui oblige les étudiants à produire autant de fiches qu'il y a de processus convoqués dans la situation professionnelle. Alors, même s'il y a des possibilités pour faire des copier-coller, etc., pour simplifier, pour repérer les situations professionnelles qui sont convoquées ou auxquelles les fiches font référence, on est quand même sur une difficulté. Alors, Canopé a fait un travail assez lourd pour essayer d'adapter son modèle, donc on est en phase de négociation aujourd'hui pour avoir une version qui serait transitoire ou temporaire, où on aurait bien une fiche par situation professionnelle, mais dans une fiche, il y aurait différents onglets que l'étudiant va activer en fonction des processus qui sont convoqués dans la situation professionnelle. Donc je me résume, on crée une fiche pour la situation professionnelle, entreprise, machin. Dans cette situation professionnelle, je convoque le processus 1, le processus 2, le processus 3 et le processus 7. Eh bien, je vais aller chercher les activités liées au processus 1, au processus 2, au processus 3 et au processus 7 sur la base des onglets qui sont, donc, que vous ne connaissez pas encore, mais qui seraient activables à partir de la solution Cerise. Bon. Alors, tout se passe plutôt pas mal, jusqu'au moment où il faut éditer les fiches pour l'examen, parce que là, effectivement, on a une structuration qui est un peu diffuse, un peu compliqué à lire, pas très clair pour tout dire, donc ce qui rend nécessaire une évolution à moyen terme pour que le modèle soit vraiment celui d'une situation professionnelle et décrite par une et une seule fiche, sans qu'il y ait le système d'onglet, etc. Voilà, donc c'est une solution qui devrait voir le jour dans quelques temps. Vous savez, comme moi, que le développement informatique le passeport, retenez bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des confusions. On a essayé d'y répondre au fur et à mesure où les questions étaient posées sur la liste de diffusion. Le passeport, ce n'est pas vous qui avez à renseigner. Ce n'est pas vous qui avez, professeur, à éditer les fiches, à dire aux étudiants ce qu'ils ont à remplir. Parce que si vous faites ça, vous vous substituez à leur travail d'explicitation et finalement, vous les privez d'un temps essentiel pour qu'ils puissent prendre conscience des compétences qu'ils ont développées. J'ai fait ça parce que je l'ai fait comme ça, voilà les difficultés auxquelles j'ai été confronté, mais en réalisant ce travail, je sens bien que j'ai progressé sur tel ou tel point. Voilà ce que c'est que l'explicitation. Si le professeur le fait à leur place, eh bien, on prive les étudiants de cette occasion rare de prendre conscience de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont appris en faisant. Voilà, de ce qu'ils ont appris en faisant, ce qui est vraisemblablement le but essentiel d'une formation professionnelle qui vise à maintenir aussi le niveau de professionnalité des étudiants tout au long de leur vie. Si c'est parce que le professeur me l'a dit, une fois qu'il n'y aura plus de professeur à côté de moi, comment vais-je m'en sortir ? Donc c'est à eux, effectivement, d'expliquer la manière dont ils s'y prennent et ce qu'ils ont appris en étant confrontés à des difficultés. Donc voilà, c'est vraiment leur travail à eux. Vous trouvez le juste milieu en termes de situation professionnelle entre trop, qui serait une perte de temps, qui serait des grains trop fins, et trop peu, qui ferait que l'exercice ne serait pas suffisamment formateur. Voilà, donc il y a un compromis à trouver. Peut-être que pour la première fiche de situation professionnelle, il peut y avoir un travail collectif, un travail de classe, autour de groupe, autour de l'explicitation. Maintenant, une fois que les premières sont traitées, on peut estimer que les élèves, les étudiants vont progresser. Ils progresseront d'autant mieux qu'ils auront été confrontés à cet exercice d'avoir à expliciter. Et je vous le redis, ce n'est pas un exercice qui est artificiel. C'est vraisemblablement aussi l'apprentissage d'une relation qu'ils auront à construire avec un supérieur hiérarchique, quel qu'il soit, relation qui va les obliger à avoir à justifier le plus sincèrement possible, le plus clairement possible, de la manière dont ils ont traité une situation, de ce qu'ils ont appris et des difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Donc c'est un exercice qui n'est pas du tout artificiel, mais qui pourrait s'installer d'ailleurs sous la base d'une communication professionnelle entre un professeur qui jouerait le rôle cette fois-ci non pas d'un professeur, mais plutôt d'un professionnel s'impliquant dans une situation professionnelle, l'expert comptable par exemple, ou le chef d'entreprise ou le chef de service, qui attend de son comptable des explications ou la documentation de choix et d'une démarche. Donc vous pouvez y aller si vous voulez, à conduire l'évaluation des situations professionnelles en étant impliqué non pas exactement comme un professeur, mais tout simplement celui qui amène la réflexivité, qui veille à ce que le comptable ait fait correctement les choses et s'il a été confronté à des difficultés, eh bien qu'il ait pu s'en sortir correctement. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport au passeport ?
Non, mais j'y ai répondu.
Ouais. Bon, il y a une question essentielle posée par La Réunion, je crois. Peut-on s'attendre à ce que le passeport des bac-pro cumule l'ensemble de leur formation ? Alors, la réponse est non, pour deux raisons. Alors, la première raison est posée par Rosen, peut-être même par trois raisons. La première, c'est celle de la CNIL. La base de données conçue autour de GA ou des bacheliers pro qui utilisent le Cerise est protégée pour des usages, elle est déclarée à la CNIL pour des usages qui sont bien restreints et pour une durée d'ailleurs qui est restreinte et qui n'intègre pas celui de la poursuite d'études. Deuxième raison, c'est une raison technique. Le passeport Cerise GA n'est pas interopérable avec le passeport CG. Alors, cette contrainte technique pourrait être levée, ça demanderait un tout petit peu de temps, quelques années de travail, je pense. Et la troisième raison, c'est en termes de positionnement et d'accueil des bacheliers pro en BTS, on peut imaginer qu'il y ait une situation professionnelle intégrer dans le passeport pro qui soit antérieur à la formation et qui serait intitulé, voilà, formation BTS-CG, et qui serait intitulé situation professionnelle, formation BTS-GA. Et donc, c'est à l'élève de restituer ce qu'il a fait en GA, de vous restituer ce qu'il a fait en GA. C'est une manière de traiter le positionnement, de savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont compris, et peut-être, alors à moyen terme, d'adapter les parcours ou de différencier les parcours pour mettre davantage l'accent sur ce qui manque peut-être à un GA, sans avoir à refaire ce qu'il aurait pu acquérir pendant les 3 années. On pourrait d'ailleurs imaginer que la même chose se fasse pour des jeunes qui viennent de bac STMG, par exemple, qui ne sont pas tout à fait vierges par rapport à la comptabilité, qui pourraient intégrer dans leur passeport des situations professionnelles, alors qu'ils ne sont pas tout à fait des situations professionnelles au sens strict du terme, parce qu'on est en formation techno et pas en formation pro, mais on pourrait imaginer que ça aille aussi sur ce terrain-là, y compris si des jeunes ont des activités extrascolaires dans une association, un club de foot ou que sais-je encore, une association culturelle, etc., s'ils mènent des travaux dans ces activités, dans des associations ou autres, on pourrait imaginer que ça puisse être intégré au passeport. Donc voilà les raisons pour lesquelles on ne cherche pas à aller plus loin sur la transcription du passeport professionnel bac pro dans le CG. Donc, en revanche, ils peuvent se dire que c'est possible et ils ont cet effort d'explicitation qui correspond à un positionnement, de savoir avec quoi, avec quel bagage les élèves, quels qu'ils soient, arrivent en BTS. D'autres questions sur le passeport ? Oui. De nos passages, enfin de mes passages dans les académies, je ressens quand même un peu une frilosité à aller vers le passeport, donc on conçoit bien que c'est nouveau, que ça arrive, c'est nouveau à mettre en place. N'attendez pas, bon, là on est, la bonne moitié de l'année est passée.
C'est un code de la première année.
On devrait avoir des passeports.
Je donne un code avec un biais. Donc, tu fais un numéro de téléphone, tu fais ton code de conférence avec le biais.
Parce que tout ce qui n'est pas fait sera récupéré à un moment donné.
Je l'ai proposé tout à l'heure, mais vous m'avez dit que ça allait rester
vos étudiants. Avant
de se quitter, je suis en train de me faire taper sur les doigts parce qu'il n'y en a pas fait le test.
Et je crois que c'est un travail qui est à faire au fur et à mesure. Vous avez du temps pour ça, notamment les heures d'atelier professionnel, qui sont des heures qui sont dédiées à ce type de travail. On a aussi les 3 heures en autonomie en salle à fond.
Après, il faudra les réécouter un moment.
Au renseignement des fiches du passeport. Question, le passeport professionnel doit-il comprendre uniquement des situations professionnelles éligibles à l'examen ? Alors, je ne sais pas ce que veut dire, oui, éligible, on sait ce que ça veut dire, ou pas. Ça va en tout cas au-delà des 3. Ça va au-delà des 3, du dossier. Des 3 pour 4-2, des 3 pour 5, parce qu'on aura du mal à couvrir le référentiel avec ces 6 activités, ces 6 situations professionnelles. Donc il faut aller, moi, je vous l'ai dit, enfin, le nombre, j'ai du mal à donner un nombre, le critère d'éligible si vous voulez, et c'est cette interaction entre le professeur et sa classe ou ses élèves. Je vous donnais tout à l'heure un exemple en disant, bon, voilà, on peut imaginer que le professeur dise à sa classe, on va travailler sur une situation professionnelle qui pourrait être inscrite ou renseignée dans le cadre de votre passeport professionnel. On peut imaginer qu'il y a ces attendus qui se passent entre un professeur et sa classe. On peut imaginer qu'il y a dans certains cas, pour les 2 stages, certains étudiants leur premier stage ne soit pas tout à fait étoffé pour donner lieu à un renseignement de l'affiche, pourquoi pas, bon, et puis d'autres, oui. Donc il y aura des variations d'un élève à l'autre, d'un étudiant à l'autre, mais il y aura forcément des points communs, notamment par rapport à ce qui est travaillé au lycée. Donc l'idée d'éligibilité, il faut qu'on puisse se mettre d'accord là-dessus. éligible, c'est par rapport à la définition qu'on a donnée, là, qui est page 100 et quelques du référentiel. Vous avez une définition que j'ai rappelée tout à l'heure. Donc, elle couvre plusieurs activités, elle est opérationnelle, elle répond à une mission, etc. Voilà, c'est... Donc, la situation professionnelle est caractérisée par la réalisation ou l'observation de travaux complémentaires répondant à un même problème de gestion. Elle est réalisée pendant une période donnée, soit en milieu professionnel, au sein d'une équipe ou d'un service, soit dans l'établissement de formation, etc., etc. Donc là, vous avez tous les critères d'éligibilité de la situation professionnelle. Donc, si ça répond à ça, ça peut figurer, peut-être ça doit figurer dans le passeport professionnel. Pendant que nous sommes là-dessus, sur les situations professionnelles, je fais une aparté, j'ouvre une parenthèse qui va être rapidement fermée. Enseigner par les situations professionnelles ne remplace pas une réflexion sur l'apport de contenu. S'il y a compétences, c'est bien parce qu'il y a des connaissances, des savoirs, des techniques qui sont appliquées. J'ai eu l'impression, nous avons eu l'impression que parfois, les préconisations en termes d'enseignement par situation professionnelle se substitueraient complètement à l'idée d'avoir des temps de cours où le contenu est travaillé. Bon. Le modèle qui nous semble devoir être revisité, c'est le modèle heure de cours pendant les classes entières où on fait cours. Un très grand nombre d'entre vous a déjà revisité ce modèle, donc heure de cours pendant les heures classe entières, et puis on applique sous forme d'exercice pendant les TD. Bon. Je suis sur une caricature volontairement pour vous montrer un petit peu les extrêmes du continuum. Et puis il y a l'autre côté, on serait sur un enseignement uniquement par situation professionnelle, en espérant que les étudiants vont pouvoir consolider les contenus tout seuls parce qu'ils auront fait, etc. Entre les deux, il y a effectivement un enseignement par situation professionnelle, donc on met les étudiants en situation d'avoir à répondre à des missions, d'avoir à travailler, d'être actif le plus souvent possible, mais pour autant, il doit y avoir, pendant vos interventions, des temps où on travaille, on stabilise les connaissances, les techniques, les concepts, etc. Alors ça peut être avant. J'imagine mal, par exemple, que sur P3, on commence P3 par des situations professionnelles sans préciser ou sans amener les étudiants à comprendre que le système fiscal français est construit autour d'une typologie entre impôt direct et impôt indirect. Voilà. Donc, peut-être faut-il commencer par la présentation de cette typologie, impôt direct, impôt indirect, plutôt que d'essayer d'amener les étudiants à découvrir cette typologie, ce qui pourrait prendre beaucoup de temps. Ensuite, on peut imaginer que, et c'est un petit peu le sens des travaux qui sont présentés au sein du CRCF, eh bien, qu'il y ait des temps d'apport de contenu, sous une forme ou sous une autre, parce que tout au long de la situation professionnelle. Donc on découvre qu'il y a des travaux de fin d'exercice, on comprend à quoi servent ces travaux de fin d'exercice, donc les étudiants ont compris ça, on peut avoir un temps de synthèse qui va permettre de consolider cette connaissance des travaux de fin d'exercice, peut-être différents types de travaux de fin d'exercice, on travaille sur les amortissements, les dépréciations, etc. Et puis là encore, au fur et à mesure, il y a des apports de contenu qui viennent au fur et à mesure du déroulement de la situation professionnelle. Les apports de contenu viennent structurer le déroulement de la situation professionnelle et la situation professionnelle vient donner sens aux contenus qui sont apportés, consolidés, etc. On pourrait imaginer, sans que ça soit...
Merci de couper vos micros, s'il vous plaît.
...que des apports de contenu puissent se faire, in fine, un peu comme un temps de synthèse. Voilà ce qu'on a vu, voilà ce que vous avez appris au travers de la situation professionnelle qui vient de se dérouler. Donc, il y a une très forte complémentarité à la compétence, je vous l'ai dit, elle s'appuie sur des connaissances, sur des techniques, sinon c'est du hasard, c'est de l'habileté. Si on est sur des connaissances, sur des compétences, c'est bien parce qu'il y a des savoirs qui sont mobilisés, des savoirs qui peuvent être conceptuels ou des savoirs qui peuvent être des techniques. Donc, c'est tout le travail qui a été fait dans l'écriture du référentiel pour décrire les composantes avec les données de la situation. Et puis également les savoirs qui apparaissent comme des ressources, les savoirs associés qui apparaissent comme des ressources. Donc les savoirs ne sont pas travaillés pour eux-mêmes, c'est pas la connaissance en tant que telle qui nous intéresse, c'est bien des savoirs pour être mobilisés, qui vont être mobilisés dans le cadre de la réalisation de missions au moment de l'examen, etc. Les étudiants confrontés au sujet 4.1 vont se dire, ben voilà, quand on me demande des travaux de fin d'exercice, je sais qu'il y a les amortissements, les dépréciations, etc. Et leur méthodologie va se dérouler petit à petit. Ils vont rechercher, munis de cette grille de lecture, les informations qui sont relatives à ces différents éléments dans le contexte qui leur est communiqué. Voilà. Donc je voulais également faire cette parenthèse autour des situations professionnelles pour éviter cette ambiguïté autour du lien avec la connaissance. Bien entendu, il y a un rapport au savoir qu'il faut pouvoir nouer et décrypter avec les... Dernier point en ce qui me concerne, je voulais vous parler des stages, toujours un petit peu sous la forme des questions, de réponses à des questions qui ont été posées. Donc les stages ont un rôle assez différent de celui qui leur est donné aujourd'hui, où en général, les stages en BTS CGO visent à réaliser des travaux comptables, qui pourraient d'ailleurs être assez proches de ceux qui sont réalisés en formation, à peu de choses près. Là, on a voulu aller un petit peu plus loin, notamment en les amenant à observer des activités de caractérisation, d'analyse d'un processus in vivo, ce qui est très difficile, je vous l'ai dit tout à l'heure, à reproduire en classe. On peut également les amener à observer des activités de veille, quels sont les outils mobilisés par l'expert comptable, comment communique-t-il les travaux ou la veille à ses clients, etc. Et puis on peut aussi avoir des travaux comptables réalisés de manière assez classique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Il y a deux points que je voulais évoquer avec vous. Le premier, c'est le rôle des 5 jours. Le rôle des 5 jours qui me semble important et peut-être pas suffisamment exploité dans la configuration que nous avons pu observer dans différentes académies. Alors peut-être faut-il du temps pour donner du sens à ces 5 jours qui peuvent être détachés des 10 semaines. Ça peut être des jours d'observation, ça peut être une semaine avant le début du stage, pour négocier les travaux, pour observer le contexte dans lequel on va travailler et affiner les missions qui vont être travaillées pendant le stage, etc. Donc il y a ce rôle de 5 jours où on prend un petit peu la température du contexte dans lequel on pourrait travailler pour essayer d'affiner du mieux possible le contenu du stage. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer avec vous. Deuxième point, je ne sais pas si vous êtes informé, mais il y a eu une modification des textes réglementaires par rapport au stage. Donc, vous l'aurez dans la boîte de documents quand vous allez vous joindre après cette visioconférence. Il y a une nouvelle attestation de stage donc, qui a été publiée dans le bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche. On n'a pas voulu l'intégrer dans la circulaire 2016 parce que ça faisait trop de changements pour une seule session. En revanche, nous allons l'intégrer dans la circulaire 2017. Et une académie, donc l'Académie de Rouen, a fait un travail qui me semble intéressant, hein, c'est de concevoir une attestation de stage, une convention de stage plus exactement, qui répond au principe de cette circulaire. Tout ça sera mis en ligne assez vite maintenant sur le site du CRCF. Voilà. En ce qui me concerne, les questions que l'on nous pose, enfin, j'ai essayé de traiter les questions que nous posent de manière assez générale, mais peut-être y a-t-il des questions plus précises que vous pourriez poser à l'intervenant directement ou en posant par le biais du chat.
C'est presque qu'on dit.
Oui, ben, je ne sais pas, on ne lui a pas donné de nom parce qu'on n'a pas su. Il a un nom.
Conduire une analyse réflexive.
Ouais. C'est écrit, si vous voulez un nom, c'est. Pour moi, c'était écrit.
La dernière fois. Écrit professionnel, parler d'écrit professionnel, mais je...
Ouais. Là, vous m'entendez?
Je pense que les gens
Vous m'entendez? Voilà, donc le voilà de retour. On est vraiment désolé de cette fragilité du dispositif. On n'arrive pas à savoir d'où vient le problème. Voilà. Donc la question, c'était le nom donné à l'écrit. Voilà, bon, pour nous, c'était écrit épreuve 6. Alors, si vous voulez, ça peut être écrit à partir des activités vécu ou observé dans l'entreprise machin ou pendant le stage, quoi, si vous voulez. On n'a pas, vous n'êtes pas interrogé au nom particulier. Le nom, c'est épreuve 6, c'est le nom du candidat. Quoi. Voilà. Alors, d'autres questions? Ceux qui sont avec moi sur les jurés de concours, on demande ça, mais on ne demande pas l'exhaustivité des questions. C'est globalement pour un travail d'harmonisation des notes, pour pouvoir cibler, savoir quelle était la structure de l'exposé, de l'entretien plutôt. La structure de l'entretien, donc c'est des questions. Voilà, c'est la structuration de l'entretien, si vous voulez, plus que les questions, l'intégralité des questions posées.
Pour les CCF, ils peuvent adapter en plus.
Ouais, mais là, c'est CE6.
Ah oui, c'est
CE6.
Il n'y a rien sur la circulaire.
Il y a d'autres questions?
Non. Ah oui, bonne question.
Carré la main.
Je ne sais pas.
D'autres questions encore?
Je ne sais pas si je.
N'hésitez pas.
On est bloqué, on est très bien. Tu lui as envoyé un petit.
Bah là, c'était trop long sur SMS, c'est pas facile, il faut voir.
Ouais.
Par mail.
Ouais.
Expliquer ce que le problème qui s'est passé.
Tu le sais? Tu le feras?
Est-ce que tout est clair pour vous? Enfin, il faut pouvoir digérer tout ce qu'on a pu se dire cet après-midi.
Coupé.
Alors, le retour sur les PGI, alors, c'est une question de Créteil, c'est une question essentielle parce qu'on a beaucoup parlé de PGI. Bon, tout d'abord, alors je réponds à la question posée par Créteil, qui était une question qui visait à une prise de température dans les différentes académies réunies cet après-midi, mais je vais quand même intervenir sur cette question. On ne va pas avoir le temps, on aura la vidéo. Voilà. Alors, sur les PGI, le travail qui est fait aujourd'hui est le suivant. Je suis en train de lire tous les messages qui défilent trop vite pour moi. J'arrive pas à lire et à réfléchir en même temps. Alors, sur les PGI, il y a plusieurs choses. Il y a le PGI et la base de données. Donc, on travaille avec le CRCF, avec deux éditeurs de PGI que vous connaissez, mais que je ne vais pas citer, parce que les produits sont ripés, parce que donc reconnus d'intérêt pédagogique, parce que les solutions qui sont mises à notre disposition nous semblent accessibles. Daniel Perrin-Toinin, oui, pourrait s'exprimer, mais il a écrit tout ça. Donc il y a une excellente note de Daniel sur le site du CRCF quant au PGI. Donc je vous y renvoie évidemment, et je remercie son auteur d'avoir écrit ces pages qui sont extrêmement claires. Voilà. Mais pour aller, non pas un tout petit peu plus loin, mais vous porter sur une réflexion un petit peu différente. Donc, on a le PGI à la base de données. Donc, le PGI, vous utilisez les supports que vous voulez. Bon, nous, les cas qui sont produits, travaillés au niveau du CRCF sont des cas forcément avec des éditeurs qui sont à la fois ripés et avec lesquels on a des conventions, ce qui est le cas des deux que vous connaissez. Strasbourg est intervenu, donc vous relirez le chat et vous verrez la référence de l'éditeur de Strasbourg. Donc on est en phase de négociation avec l'Académie de Strasbourg et un éditeur pour avoir une solution en full web qui présente plusieurs intérêts, déjà parce que l'installation technique est allégée pour les établissements scolaires, et puis ensuite parce que on arrive, le produit est tout à fait compatible avec nos intentions. Tout a été testé par des équipes que je remercie vraiment vivement parce que le travail a été très lourd. Et puis également parce qu'on arrive à récupérer, c'est ce que nous a montré cette équipe, des cas qui ont été conçus sous d'autres environnements, à les récupérer sous ce troisième environnement qui est expérimenté par l'Académie de Strasbourg. Voilà. Donc on a deux, peut-être trois solutions qui sont envisageables et tout à fait accessibles. Par rapport au PGI, on a le problème de la base de données. Ce qui m'effraie un peu quand je passe dans les établissements, ce qui m'arrive de temps en temps, c'est l'ergonomie, j'ai envie de dire, par chaque situation professionnelle. À chaque situation professionnelle, on aurait une base de données. Ce qui est vraiment très lourd, d'autant plus que chaque étudiant aurait à sa disposition une reproduction de la base de données. Et donc, si vous avez par exemple 20 situations professionnelles travaillées durant la formation, 30 étudiants, ça vous fait 20 fois 30, 600 bases de données à héberger sur votre serveur, ce qui est inconcevable, les serveurs n'ont pas été taillés pour de telles charges. En revanche, dans les propositions qui sont formulées par Daniel Perrin-Toinin et qui sont mises en œuvre par d'autres, beaucoup d'autres, on arrive effectivement à travailler les situations professionnelles indépendamment de la base de données, donc globalement avec deux ou trois bases de données attachées à une solution, à un environnement, à un PGI, eh bien on arrive à traiter grosso modo le programme. Je ne dis pas qu'il faut deux ou trois situations professionnelles, mais c'est deux ou trois bases de données, parce qu'on supprime la bijection, une base, une situation professionnelle, ou une situation professionnelle, une base. On a à une situation professionnelle, à une base de données, peut répondre, on peut décliner plusieurs situations professionnelles. Et puis, une base, elle peut être déclinée pour un groupe d'élèves. Donc, du 600 tout à l'heure, 20 fois 30, on peut arriver à 20 situations professionnelles, je dis 20 comme j'aurais pu dire 12 ou 10, on a deux bases de données hébergées et répliquées pour un groupe d'étudiants, donc par exemple une base par 4, ce qui limite énormément le nombre de bases de données hébergées par le serveur. Voilà. Donc c'est un point qui nous semble important. Quand vous concevez des cas, je vais y revenir, il me semble essentiel que vous puissiez ne pas avoir à faire ce travail de conception de la base de données qui est extrêmement lourd, pénible, mais vous partez d'une base existante en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Si c'est un logiciel, un PGIA, ben vous utilisez les bases qui sont éditées ou diffusées par le biais du CRCF. Si c'est l'éditeur B, ben vous utilisez les bases attaché à l'éditeur, à l'autre éditeur, et puis vous vous en débrouillez très bien comme ça, ça suffira par rapport à nos besoins. Alors par rapport aux solutions SAS là, que Aix évoque, j'ai essayé de vous en parler tout à l'heure, c'est la solution testée par Strasbourg. Le problème, c'est qu'on est non seulement sur une prestation en termes de location de l'application, mais on héberge également nos bases de données chez l'éditeur, ce qui a un coût, et on achète une prestation de service, c'est-à-dire le maintien, la sécurisation de nos données, un accès, un taux de service de l'ordre de 99%, c'est-à-dire qu'à tout moment on peut accéder à nos données, etc., et au PGI. Donc tout ça, l'éditeur sait le facturer à une entreprise. Nous, on n'est pas en mesure de répondre aux tarifs qui nous sont proposés. Donc on est en phase de négociation en termes de tarification pour faire baisser singulièrement le prix de la prestation, même si on accepte une baisse de qualité de service. C'est-à-dire que si on n'accède pas 99,5% du temps à la base de données ou au logiciel, si on est sur un tout petit peu moins, pour baisser le coût. Voilà, donc c'est la phase de négociation dans laquelle on va se lancer. Bon, de toute manière, alors pour vous donner un ordre de grandeur, on a essayé de travailler avec un des deux éditeurs que vous connaissez, puisqu'il travaille avec le CRCF. On était sur un coût qui était de l'ordre de 4 000 euros par an, compris logiciel, hébergement des données et niveau de qualité de service de l'ordre de, enfin, professionnel, quoi. Bon, 4 000, si on vous avait proposé cette prestation à 4 000 euros, enfin, si l'éditeur vous avait proposé, si on avait accepté de conventionner à 4 000 euros par an, je pense que personne n'aurait été dans cette ligne-là et personne, tout le monde aurait eu raison. Donc on n'y arrive pas, si vous voulez. Donc on est en train d'essayer de revoir le modèle économique du troisième éditeur pour baisser. Aujourd'hui, on est de l'ordre, l'équipe de Strasbourg me contredira si ce n'est pas le cas, mais je crois qu'on serait à 600 euros par an pour les deux promotions, première et deuxième année, c'est-à-dire 10 euros par étudiant. 10 euros par étudiant. Voilà, on serait sur 600 euros, mais c'est tous les ans, alors que sur les autres, vous devenez propriétaire.
Tous les ans.
Voilà, c'est ce modèle, c'est ce problème qui est posé ici. Voilà. D'autres questions ?
Ça existe déjà, mais c'est 10 euros par étudiant pour deux ans.
Sur la forme, là, tu vois, de l'écrit, il y en a encore qui disent 10 plages plus 2, ce sera dans la circulaire. J'ai répondu que.
Oui. Voilà, full web, vous avez raison, à la réunion, il y a la contrainte du débit. Bon, mais voilà, on n'est pas à l'abri de tout ça.
Ça fait partie des contraintes.
Ça fait partie des contraintes, hein, bien sûr. On reste disponible évidemment pour répondre aux questions qui subsisteraient encore, n'hésitez pas, la liste est faite pour ça, vous nous écrivez aussi directement et on alimente, on répond à tout par le biais de la foire aux questions qui est mise à jour régulièrement. Voilà, je vous remercie tous, on vous remercie tous pour votre attention, on est vraiment désolé des problèmes techniques auxquels on a été confrontés. Normalement, tout est enregistré, donc vous devriez pouvoir récupérer les enregistrements sur le site du CRCF. Encore faut-il qu'on puisse les transférer. Voilà. Merci à vous tous.
C'est la partie entre deux.
Puis on reste à l'écoute et à votre disposition pour les questions qui vont subsister ou qui vont se poser au-delà de ce temps d'échange. Merci à vous. Merci à Rosane pour ce talent de participer, de répondre, etc. À bientôt.